Europe 1.
Fursi, l'esclave qui a défié ses maîtres. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode, l'intendant de Joseph Laury a osé demander au procureur de Saint-Denis de la Réunion la reconnaissance de son statut d'homme libre après avoir découvert un acte affranchissant sa mère. Le magistrat progressiste venu de la métropole a reconnu que Fursi était retenu illégalement comme esclave par son maître. Mais avec la complicité des planteurs, Laury obtient la condamnation pour marronnage de son esclave et le fait embarquer à bord de la Clélie pour une destination inconnue. Épisode 2, la voie de la liberté. Le 2 novembre 1818, Fursi accoste sur l'île Maurice. Cette ancienne colonie française est dorénavant sous contrôle anglais, mais la belle-sœur de Joseph Laury y vit toujours. Fursi est conduit à pied jusqu'à son domaine, les Trois Îlots. Là, il travaille dans les champs de canne à sucre. Chez Joseph Laury, l'esclave n'effectuait pas des tâches aussi dures. Il découvre l'horreur des champs et le travail physique éreintant sous un soleil de plomb. La récolte s'effectue sous la direction d'un commandeur noir. Cet homme a pour mission de fouetter ceux qui ne travaillent pas assez vite ou qui s'écroulent de fatigue. Fursi comprend que son maître a choisi de le briser psychologiquement. À celui qui se prenait pour un homme, il a réservé un travail de bête de somme. Après 3 ans de travail dans les champs, Fursi est envoyé à l'usine sucrière. Là, il parvient à se faire remarquer par ses maîtres. Son éducation et son intelligence le distinguent de la masse des esclaves. On décide donc de l'envoyer à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, dans la maison de sa maîtresse. Il s'occupe dorénavant du jardinage et de la pâtisserie pour laquelle il se découvre un talent certain. Maintenant qu'il est en ville, Fursi est un peu plus libre de ses mouvements. Alors qu'il fait une course, il entre dans l'échoppe d'un écrivain public et dicte une lettre pour le procureur de la Réunion, Louis-Gilbert Boucher. Il se plaint d'être toujours accablé par l'esclavage et le supplie de lui venir en aide. Mais ses demandes restent lettres mortes. Fursi ne sait pas que Philippe Desbassins a obtenu la mutation du procureur Boucher à Bastia, ultime représailles envers un homme trop juste qui risquait de briser le fragile équilibre de l'île fondée sur la terreur et l'illettrisme. Le dimanche, Fursi se rend à l'église. Le père Déroulède, qui se charge des offices, est un blanc qui vient de la métropole. Lorsque Fursi apprend que le religieux est un ancien avocat, il lui tombe dessus et lui raconte son histoire. Déroulède est profondément touché par ce récit, d'autant plus qu'il a très bien connu Louis-Gilbert Boucher. Déroulède est aussi franc-maçon. Il fait partie de la loge mauricienne de la Triple Espérance. Les frères membres sont tous des bourgeois mauriciens progressistes, décidés à en finir avec l'esclavage. Le prêtre écrit donc à Boucher pour lui demander un pourvoi en cassation dans l'affaire Fursi. En cette année 1826, 3 lettres partent vers la France mais restent sans réponse. Sur ces entrefaites, une corvette débarque à Maurice. 3 commissaires en descendent. Ils sont venus d'Angleterre pour travailler sur un projet de loi, l'abolition de l'esclavage. La France est le premier pays à avoir aboli l'esclavage en 1794 pendant la Révolution. Beaucoup de Français s'opposaient à cette pratique et l'ont largement exprimé dans les cahiers de doléances, surtout dans la moitié nord du pays. L'esclavage a été rétabli pendant le Directoire le 20 mai 1802. Les Français venaient de récupérer la Martinique, Tobago et Sainte-Lucie des mains des Anglais. Les propriétaires terriens ont fait pression sur la métropole. Sans la main-d'œuvre servile, ils ne pouvaient pas concurrencer les planteurs anglo-saxons. C'est dans ce contexte que Napoléon, alors premier consul, a rétabli l'esclavage, ce qu'il regrettera à la fin de sa vie. Il abolira d'ailleurs la traite négrière quelques années plus tard, en 1815. Les 3 commissaires anglais débarqués à Maurice rencontrent beaucoup d'esclaves et discutent de leur sort. Fursi saute sur l'occasion et écrit cette fois-ci au gouverneur de Maurice. Il raconte encore son histoire et celle de sa mère dans les moindres détails. Bouleversés par son récit, les autorités anglaises se penchent sur son cas. C'est là que les autorités mauriciennes découvrent un détail inattendu dans le cas Fursi. Le Réunionnais est arrivé à Maurice de manière irrégulière. Laurie n'a déclaré le transfert de son esclave ni à la douane, ni sur les registres de la Clélie. À cause de ce vice de forme, Fursi est déclaré libre. Le rêve de Fursi se réalise. L'ancien esclave ouvre un petit commerce de pâtisserie et de confiserie à Maurice. Bientôt, il prospère et achète deux esclaves pour l'assister. Il estimait être un homme libre et s'est battu pour la reconnaissance de son statut. Comme beaucoup d'esclaves affranchis, il imite le style de vie des Blancs en achetant des esclaves. Fursi devient progressivement un notable de l'île Maurice. Il a pu épouser la femme qu'il aimait et avoir des enfants. Mais il n'est pas satisfait. Il est considéré comme un affranchi et veut donc changer son état civil. Il veut être reconnu comme un ingénu, un homme né libre. En 1835, il envoie de nouvelles lettres en France. Elles finissent par atterrir entre les mains de Godard de Saponnet, avocat à la Cour de cassation, qui a repris les dossiers de son confrère Louis-Gilbert Boucher. La France est alors dirigée par Louis-Philippe, un roi considéré comme plutôt libéral et progressiste. Beaucoup d'intellectuels et de juristes sont déterminés à faire abolir l'esclavage une bonne fois pour toutes. Le cas de Fursi intéresse tout le monde à Paris. La demande de pourvoi en cassation est acceptée. Le Réunionnais doit se rendre à Paris. Après plusieurs semaines de voyage, Fursi découvre la capitale. L'air de la fin de l'hiver lui semble piquant. La foule compacte en manteaux sombres, grouillant dans les rues grises, lui donne le vertige. Son accent des îles détonne à côté de celui des Parisiens. La presse se bouscule au procès de Fursi. Les journalistes le décrivent comme un mulâtre, il a la peau mate mais les traits fins des Européens avec des cheveux bruns coiffés en arrière. Le procureur général Dupin, proche du roi Louis-Philippe et fervent abolitionniste, a fait une grande publicité de ce procès. L'avocat de Fursi, Godard de Saponnet, fait une superbe plaidoirie. Madeleine apparaît comme une victime de l'inéquité coloniale. Cette petite indienne était libre à Chandernagor quand elle est devenue la servante de Mademoiselle Dispense. Elle était libre en arrivant sur le territoire français et elle a été réduite illégalement en esclavage une fois arrivée sur l'île Bourbon. Aux yeux de la loi, Fursi n'est pas un esclave. Il est le fils d'une indienne et la loi française ne tolère que l'asservissement des Noirs sur les territoires des colonies. Gilbert Boucher, qui a fait le déplacement depuis Poitiers pour voir le procès, opine du chef en écoutant la plaidoirie de son confrère. Ce qui se joue dans cette cour dépasse largement Fursi. C'est en réalité un combat de militants abolitionnistes de la métropole contre les idées rétrogrades des planteurs et leur sentiment de toute puissance par rapport à la loi. La cour de cassation finit par casser la décision de justice rendue au tribunal de Saint-Denis 18 ans plus tôt. La cour est en pleine effervescence. Louis-Gilbert Boucher s'avance vers ce justiciable qu'il n'a pas réussi à secourir quand il était en poste sur l'île Bourbon. Les deux hommes sont émus. L'injustice est en partie réparée. L'affaire Fursi va pouvoir être rejugée. Sans doute mise au courant des détails de l'affaire par Godard de Saponnet, Marie-Amélie, la reine des Français, fait donner une bourse à Fursi pour financer son retour chez lui et la suite de son procès. Fursi est toujours noté sur la liste des esclaves appartenant à Joseph Lory pendant les recensements réunionnais. Malgré le décès de son ancien maître en 1839, Fursi continue son combat. Cette fois, c'est une question d'honneur. Fursi revient à Paris en décembre 1843, alors que son affaire passe devant une nouvelle cour. Les milieux progressistes ont fait de lui un symbole de l'abolition de l'esclavage. Le 23 décembre, le juge rend son verdict. Fursi est un homme né libre. Il a 56 ans. Il vient de gagner le combat qu'il avait commencé 26 ans plus tôt. La famille Laurie est condamnée à payer les frais de justice, mais Fursi ne touche aucune indemnité financière. Son cas est abondamment repris dans la presse militante et fait l'objet du premier numéro du journal anti-esclavagiste L'Abolitionniste français. On en parle aussi à Londres dans l'Anti-Slavery Reporter, mais à La Réunion, on préfère garder le silence. Chacun sent que le système esclavagiste est sur le point de s'effondrer. Alors les créoles préfèrent le nier. Avant de s'embarquer à nouveau vers l'hémisphère sud, Fursi s'acquitte d'une dernière tâche administrative en mettant de l'ordre dans ses papiers d'identité. Il est maintenant considéré comme un ingénu, un homme né libre, un colon français, issu d'une mère indienne et d'un père français. Et ce n'est pas tout. Fursi a maintenant le droit d'avoir un nom de famille comme tous les citoyens. Il s'appellera dorénavant Fursi Madeleine, en hommage à sa mère, et il transmettra son nom à ses enfants. Une partie de ses descendants vit toujours à l'île Maurice. C'est la fin de ce récit consacré à Fursi, l'esclave qui a défié ses maîtres. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique de ce podcast est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de sa diffusion.